J'ai l'habitude de dire, quand on parle de rencontre, puisqu'il s'agit d'une rencontre, à chaque fois qu'on va vers l'autre, on est dans une rencontre, qu'une vraie rencontre commence par la seconde. La première fois, on est toujours tous prêts à se rencontrer, et c'est quand on a envie de se revoir que là, la première rencontre aboutit à quelque chose. Donc j'espère avoir l'occasion de revoir vos visages, et que vous aurez l'occasion de revoir le mien dans différents contextes, peu importe. Alors, on me demande de parler d'un sujet qui est très prolixe, prolifique, très complexe, qui est d'ailleurs abordé quasiment partout dans les ouvrages qui circulent, sur la question à la fois de la naissance du peuple juif, de l'élaboration de la tradition juive, du contexte biblique et en parallèle avec le contexte historique. Vous imaginez bien qu'on m'a donné un programme d'études sur l'année. Mais je vais faire en sorte d'être le plus ciblé possible. J'aime beaucoup cette phrase de Maïmonide, qui est le plus grand penseur juif du Moyen-Âge. On en parlera un peu plus loin, Maïmonide, qui dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit ceci: si j'avais pu résumer l'intégralité de la Torah en un seul chapitre, je ne l'aurais pas résumé en deux. L'art de la concision est plus important que l'art d'en dire beaucoup, et c'est en en disant peu, en réalité, qu'on contient plus de choses dans notre discours. Alors, je ne dis pas que j'en suis capable, mais je vais essayer. Alors tout d'abord, je vais rebondir parce qu'il faut toujours une entrée, il faut un espace pour entrer dans le vif du sujet. La semaine dernière, il se trouve que j'ai fait, ce que je fais d'ailleurs tous les ans, une formation en religion pour des étudiants en formation pour entrer dans le travail social. Donc c'est un module que j'organise tous les ans avec un ami musulman, un ami chrétien ou une amie, peu importe. Et il y a aussi une personne qui vient représenter les religions d'Afrique, etc., les religions bouddhistes, asiatiques. Et souvent, il y a une question toujours récurrente qui se pose, et je me rends compte que c'est une préoccupation que les gens ont, qui est cette notion floue de qu'est-ce que être juif. Alors, je ne vais pas y répondre maintenant, hein, être juif, il y a des ouvrages entiers qui ont été écrits, mais c'est l'entrée que j'ai trouvée pour pouvoir aborder mon sujet. Est-ce que être juif, c'est appartenir à une religion ou appartenir à un peuple, ou bien les deux? D'où intervient la question. Alors, c'est aussi l'objet de mon travail sur la violence. J'y reviendrai peut-être à la fin parce que c'est un peu lié à notre sujet maintenant. Pas sur le thème de la violence, hein, le thème du peuple juif dont on parle. Alors, cette idée, c'est une entrée en matière qui n'est pas seulement liée à ce qu'on va aborder maintenant, qui est liée à peut-être beaucoup d'autres contextes dans lesquels vous allez réfléchir sur ces notions-là. C'est que tout d'abord, cette idée de religion est une idée qui, d'un point de vue à la fois étymologique, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue historique et même d'un point de vue théologique, est profondément étrangère à l'islam et au judaïsme. On les appelle les religions parce qu'il fallait bien leur donner un nom, mais c'est un terme qui n'existe ni dans le Coran, dans tout l'islam on ne trouverait pas ce terme employé. Et je me lance dans le vide, puisque je ne suis pas spécialiste de l'islam, et qui n'existe pas non plus dans le judaïsme, dans la Bible, nulle part. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque on a inventé l'hébreu moderne, tiré de l'hébreu ancien, et donc on a redonné vie à cette langue, qui était une langue morte, il faut savoir que l'hébreu, quasiment de tout temps, était une langue morte. C'est une langue qui était quasiment jamais parlée par les juifs. C'est la raison pour laquelle le Talmud, par exemple, on va y revenir, est écrit en araméen, parce qu'à l'époque, les juifs ne comprenaient pas l'hébreu. C'est que plus tard, vers le Moyen-Âge, qu'on a commencé à réhabiliter l'hébreu dans le commentaire, dans la tradition des livres, c'est assez étrange, hein, finalement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'araméen qui est une langue morte, on l'utilise peu, alors que l'hébreu, c'est devenu un langage courant, tout le monde parle l'hébreu. Et bien, quand on a voulu inventer ce terme de religion, on a choisi le terme de date. Peut-être que vous avez entendu parler de ce mot, date. Alors, ça ressemble au datier, mais pourquoi?
Alors, je ne sais pas si on peut l'écrire ici pour que vous puissiez le
effacer.
Non, mais je vais juste l'écrire en mot, je n'ai pas besoin de garder ce qu'on aura. Date.
Tu as besoin qu'on l'efface?
Non, pas du tout, ça marche, sinon je peux effacer, j'ai ce qu'il faut. Alors, date, C'est très marrant parce que c'est un mot qui vient de, qui a la même racine que le mot français, puisque date, réellement, c'est comme un édit. Vous savez, l'édit de Nantes. Le mot date, qui à mon avis n'est pas de racine hébraïque, je ne suis pas très spécialiste, mais j'en suis presque convaincu, se trouve dans le livre d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther de Pourim avec la fête, les Juifs fêtent Pourim, avec l'histoire du roi Assuérus dans l'exil de Babylone, etc., où il y a un méchant Aman, c'est presque une pièce de racine, d'ailleurs on a fait une pièce de théâtre, où il y a un méchant Aman qui veut détruire le peuple juif, et il demande au roi de décréter contre ce peuple. Et le roi, il signe un date, un édit. On n'a pas trouvé mieux pour parler de religion. C'est déjà un contexte particulier lorsqu'on parle de religion, s'agissant des trois grandes religions monothéistes. On est déjà dans un terme qui est un terme qui est à la fois anachronique et inexistant au cœur même de ces deux religions sœurs avec le christianisme, qui sont l'islam et le judaïsme. Par contre, dans la Bible, dans tout le Tanakh, c'est-à-dire toute la Bible juive, on va y revenir, il n'est jamais question de religion juive, il est toujours question de peuple. Donc il faut admettre que le peuple juif, c'est d'abord un peuple. Alors, vous voyez, je suis obligé de faire une digression, parce que sinon on ne comprend pas. Déjà, la notion de peuple est une notion très floue, c'est un concept qui est très, très vague. Dans le livre L'Autre, la première partie, j'essaye une esquisse pour expliquer ce que cette notion veut dire s'agissant du contexte biblique. Mais il faut savoir que d'un point de vue du judaïsme strict, c'est-à-dire d'un point de vue de la manière dont les juifs ont perçu les textes, quand on parle du peuple juif, on va parler, certes, de cette notion qui est aussi une notion floue, qui est la notion d'ethnie, mais c'est seulement pour situer une structure originelle. Le peuple juif, c'est un peuple qui adhère à des valeurs. Cette adhésion, on l'appelle la conversion, et là aussi, le terme de conversion est un terme qui n'existe pas dans le judaïsme. On l'utilise, mais ça n'existe pas. On va plutôt parler d'intégration, au même sens que quelqu'un qui s'intègre dans un pays. En réalité, Gerout, qu'on traduit aujourd'hui par conversion, donc je vais écrire les mots, un prosélyte, on va l'appeler un guerre, je vais l'écrire comme ça, si je mets deux R, ça va faire violence, un guerre, donc la conversion, on l'appelle Gerout, guerre vient du mot lagour, le verbe lagour, qui veut dire habiter. Et c'est très intéressant, certains ont vu, peut-être que l'idée de se garer, parce que j'ai cherché une place pour me garer, c'est peut-être un peu lié à l'hébreu, vous voyez, comme quoi, avec la langue, on peut faire de la magie. Et donc, du coup, en fait, ce qui est très très intéressant, c'est que quand on parle de la conversion au judaïsme, beaucoup croient, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, qu'on ne peut pas se convertir au judaïsme, ce qui est un faux, mais le judaïsme lui-même s'inscrit dans l'idée que tout membre du peuple d'Israël qui intègre la révélation, qui reçoit donc la révélation, la loi divine, se convertit. Et c'est à partir de ce processus de conversion de l'intégralité du peuple d'Israël qu'est née la structure juridique juive qu'un non-juif, c'est-à-dire qu'il n'est pas de descendance abrahamique, peut intégrer le peuple d'Israël et se convertir à son tour. Autrement dit, l'ethnie relève uniquement d'une structure originelle. La nature du peuple juif ne dépend pas de ça. Si on vous dira, par exemple, que la plupart des juifs d'origine ashkénaze sont en réalité issus des Khazars qui se sont convertis au 7e siècle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça n'a absolument aucune incidence d'un point de vue du judaïsme. Et c'est tellement vrai cette idée que la descendance d'Abraham, elle aussi n'est pas ethnique. Elle relève uniquement d'une adhésion. À partir du moment où j'adhère au message abrahamique, je deviens descendant d'Abraham. Donc ça, c'est Maïmonide qui le dit dans un de ses textes où il répond à un chrétien converti au judaïsme qui s'appelait Obadiah, qui vivait à Narbonne, en France, et qui lui pose la question, est-ce que dans la prière juive, je dois dire le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, alors que moi je ne descends pas d'Abraham. Il lui dit ça n'a aucun rapport. à partir du moment où tu adhères à l'enseignement abrahamique, tu descends d'Abraham. On n'est pas dans une logique liée à cette question d'ADN. Ça, c'est très important, parce qu'il y a tellement de fantasmes autour de ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on parle de peuple, on parle de religion, puisque on est obligé d'en parler, puisque finalement, on l'appelle comme ça. Mais on est obligé, quand on structure le peuple juif, de distinguer les deux et de montrer que, à l'origine, c'est un peuple, pas forcément homogène, parce qu'ils sont éparpillés à travers le monde, mais que c'est à travers une adhésion à des valeurs que cette identité fait sens. Et c'est en cela qu'on peut parler de religion. Mais ça n'est pas du tout le même sens que le christianisme, quand le christianisme parle de religion. Je ne suis pas dans une opposition, j'explique simplement la distinction. Maintenant, évidemment, on va vous parler de la religion juive. Évidemment, quand vous allez voir un juif, il va vous parler de la religion juive, parce qu'il sait qu'on est obligé de parler le même langage. Si on dit, ah non, mais attendez, nous, religion, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est un peu flou, etc., ça va être un peu la foire d'emploi. Alors, je voudrais dire un mot tout de suite, puisque vous avez une démarche plutôt à la fois textuelle, mais en même temps universitaire, en même temps comprendre l'évolution d'une histoire, non pas à partir de son intimité interne, mais à partir aussi de la vision historique. Et on sait qu'avec la critique biblique, il y a pas mal de choses, et l'historico-critique, qui ont été bousculées dans ces paradigmes qui étaient censés être des dogmes, quasiment. Alors, je vais répondre à ça pour vous dire cette chose-là. Pour moi, la critique biblique, le concept de ce qu'on appelle l'historico-critique, est absolument fondamental pour restituer l'événement. Mais je risque de vous décevoir en vous disant qu'il n'a absolument aucune incidence pour la compréhension de la théologie. J'aime beaucoup cette phrase de Marc Alain Wachnin qui dit, je ne sais plus dans quel livre, j'ai lu ça dans un de ses bouquins. Alors, Marc Alain Wachnin, c'est un peu complexe parce que je ne le prendrai pas comme référence pour l'enseignement du judaïsme, parce que c'est une personne qui connaît beaucoup le judaïsme, mais qui fait beaucoup aussi d'approche personnelle, ce qui n'est pas mauvais en soi. Et il a une phrase que j'aime beaucoup, il en a sur, pas mal dans ses bouquins, il en a une que j'aime beaucoup, qui dit « Ce qui compte dans la Bible, dans la Torah, on va dire, ce n'est pas l'événement de l'histoire, c'est l'histoire de l'événement. » Alors, pour vous donner un petit exemple amusant, ma fille m'a interrogé récemment, elle a 13 ans, elle m'a demandé la question de la vérité. Elle s'est posée cette question de la vérité, qui est une question sur laquelle je travaille beaucoup. Et elle m'a demandé, mais tu crois vraiment que tous ces événements, ils se sont passés? Et moi, je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, tu sais, dans la Gazette locale, alors à Paris, on appellera ça le Parisien, vous avez une rubrique qui s'appelle les faits divers. On vous raconte des faits qui se sont passés réellement. Il y a un dicton israélien que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a pas plus vieux que le journal d'hier. » Une durée de vie d'un quotidien, c'est une journée. Le lendemain, vous mettez à la poubelle. Alors, il y en a qui le laissent dans les archives universitaires pour ceux qui veulent faire des travaux parce qu'ils veulent faire une thèse sur le mois de juin 1975. Donc, ils ont besoin d'aller voir un petit peu ce qui a été dit à l'époque dans les journaux. Mais sincèrement, ça n'intéresse personne. Parce que vous connaissez quelqu'un qui garde en retard son journal depuis 2 semaines ou 3 semaines antérieures. Non. Alors, en général, ça ne se fait pas. En général, les gens, ils... Alors, moi, je vous donne un conseil pour le quotidien, si vous êtes abonné. Je vous donne un conseil que vous connaissez peut-être, qui est extraordinairement efficace pour laver les carreaux. Sachez qu'il n'y a rien de mieux qu'un papier journal pour laver les carreaux. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'ils inventent comme... Essayez, vous allez voir. Alors, donc, il n'y a pas plus vieux que le journal d'hier. Or, tous les événements qui sont racontés dans le Parisien sont vrais, sont authentiques, ils se sont vraiment passés. On va admettre que le journaliste est sérieux et qu'il raconte les gens ce qu'il voit. Les Misérables de Victor Hugo, c'est une fiction pure et simple. Et ça continue de marquer l'humanité, et encore peut-être pour des siècles. Alors, quand on voit cette échelle de valeur, quel rapport avons-nous avec la vérité? Et j'ai dit à ma fille, la vérité, ce n'est pas un événement factuel, La vérité, c'est quelque chose qui est porteur de sens. Une fois que c'est porteur de sens, alors on peut parler de vérité. Si ce n'est pas porteur de sens, ça n'a rien à voir. Ici, je n'oppose pas vérité et mensonge. C'est plus subtil que ça. Je parle de vérité en tant qu'idée, même idée philosophique, idée qui fait sens. Et j'aime beaucoup cette phrase dans le Talmud qui dit « Toute prophétie qui a été nécessaire aux générations suivantes, elle a été écrite. Toute prophétie qui n'a pas été nécessaire aux générations suivantes, elle n'a pas été écrite. » Autrement dit, l'idée d'une révélation d'un Dieu qui se révèle à un peuple, c'est une idée qui ne dit pas uniquement qu'il y aurait un Dieu qui se serait révélé à un prophète, ça c'est presque secondaire, mais qui dit que cette parole, elle continue de faire sens, elle continue de vivre. Dès lors qu'elle fait plus sens, elle cesse d'être une révélation, c'est une rupture. Voilà, le vrai sens de la prophétie. Le sens de la prophétie, c'est profondément immanent. C'est est-ce que l'homme, il est encore capable de puiser de cet enseignement quelque chose qui fait sens pour sa vie quotidienne. Sinon, c'est que ça n'a plus rien à voir. Donc, il est intéressant de savoir, par exemple, puisqu'on parle de religion monothéiste, donc le judaïsme est une religion monothéiste, il est intéressant de savoir que d'un point de vue de la critique biblique, à l'époque de Moïse, le judaïsme, d'ailleurs ça ne s'appelle même pas comme ça, mais ça aussi c'est galvaudé, mais disons que la révélation sinaïtique, qui s'adresse à un peuple qu'on appelle les enfants d'Israël et qu'on appellera juif beaucoup plus tard, après l'exil de Judée, en 586 avant Jésus-Christ, la destruction du premier temple. Et là, on ne fait pas seulement de la critique biblique, puisque c'est aussi dans la Bible. Dans la Bible, vous savez comment on appelle juif en hébreu ? Vous avez jamais entendu parler de ce terme. Un juif en hébreu, c'est un Yehudi. Dans Yehudi, vous avez Yehuda, c'est-à-dire qu'il est issu de la Judée. C'est le peuple, qui est descendant de Juda, le fils de Jacob. Vous connaissez tout ça ou ça vous dit quelque chose hein, hein, Jacob, il avait 12 enfants, la 12 tribus d'Israël, etc. Ça fait référence, et c'est ça qui est paradoxal, à une scission qui est vraie historiquement et qui est vraie aussi bibliquement. Entre dans le peuple juif, qui a eu lieu à l'époque où il y a eu le pouvoir politique en place, donc dans l'époque biblique, entre ce qu'on a appelé le royaume, enfin c'était quelques ruelles, hein, on appelait ça un royaume, qui était d'un côté le royaume d'Israël, et de l'autre le royaume de Judée. Le royaume de Judée était croyant au Dieu Yahvé, hein, ce qu'on appelait comme ça le Dieu Yahvé, alors que les rois d'Israël, tous, ont poussé le peuple à aller vers l'idolâtrie. Donc c'est paradoxal, parce que Israël, c'est un signe honorifique du peuple juif, et de l'autre côté, c'est cette partie du peuple qui a refusé le joug de la foi en un Dieu unique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le contexte de la critique biblique vous dira le monothéisme, c'est beaucoup plus tard. C'est après Isaïe, etc. À l'époque d'Abraham et de Moïse, ça n'existe pas, le monothéisme. On va parler plutôt d'une monolatrie. C'est-à-dire le fait de croire en un seul Dieu, mais qui n'exclut pas les autres croyances. Ça, c'est une idée qui est très intéressante. Quand on regarde dans les textes bibliques la puissance du Dieu Yahvé, on parle d'un Dieu qui est le Dieu de tous les autres. On parle d'un Dieu qui est plus grand que tous les autres. Alors que le monothéisme, c'est l'idée que le concept même de Dieu ne supporte pas pluralité. Si on donne une pluralité à Dieu, on n'est plus dans la définition du terme. Donc c'est une idée beaucoup plus philosophique. Et après, plus tard, on est beaucoup plus tard, là on est dans la pensée philosophique de la théologie, on va démontrer que ce Dieu unique est une abstraction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le définir. C'est l'indicible. Ce qui n'est pas du tout le cas des textes bibliques qui ont un langage entièrement anthropomorphique s'agissant de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ce langage-là, il va falloir en passer par des textes beaucoup plus tardifs qui vont nous démontrer que c'est une métaphore, que c'est une allégorie, que c'est parce que la Torah parle le langage des hommes et parce qu'on ne peut pas faire autrement, alors on va utiliser ce langage. Je ne vais pas aborder ça en même temps, ça nécessiterait une session à part. Mais c'est simplement pour vous dire, vous avez d'un côté la critique biblique qui vous révèle des choses qui sont très importantes à savoir, mais qui ne renseigne pas du tout le contexte théologique. Pourquoi ? Parce que le judaïsme, et aussi l'islam d'ailleurs, et aussi le christianisme, vous voyez, là on est en train de les réunir, ça ne va pas arriver tous les jours, c'est un scoop, sont tous les trois dans la logique que ce Dieu unique auquel ils vont un culte commence à partir de la révélation abrahamique. Et d'ailleurs, pour la tradition juive, la Torah, elle ne commence pas à partir de Moïse. Moïse est un aboutissement de la révélation. La révélation, elle commence à partir d'Abraham. Lorsque Dieu se révèle à lui et qu'il lui dit de parcourir cette contrée, etc., et qu'il l'accompagne. Donc on voit bien que cette reconnaissance à ce Dieu-là, ce Dieu qui n'a pas d'image, est théologiquement pensable d'un point de vue d'une lecture qu'on peut faire des textes bibliques, mais il ne l'est pas du tout d'un point de vue de la critique biblique, la critique historique. Autrement dit, si on veut savoir la manière dont vivent les Juifs aujourd'hui, pratiquants, qui sont fidèles à leur texte, alors j'aime pas parler de croyance, c'est un terme un peu étrange pour le judaïsme aussi, Maïmonide parlera beaucoup plus de la connaissance que de la croyance. Et j'aime beaucoup cette phrase de Narmanide, qui est un des grands penseurs juifs du Moyen-Âge, il était du XIIIe siècle. Il est connu pour la dispute de Barcelone, c'est-à-dire qu'il a été confronté à une dispute avec l'Église. Et il écrit là-bas, d'ailleurs, à l'intérieur de ce livre, il dit « Il est évident que l'homme n'a pas foi en ce dont il n'a pas connaissance. » Pour le judaïsme, il n'y a pas une foi comme ça, dépouillée de tout savoir. Il faut connaître Dieu. Et c'est à travers cette connaissance qu'on arrive à cette idée de foi. Alors, donc, si on veut comprendre la manière dont le peuple juif évolue, le discours, le langage que le peuple juif va employer va être un langage qui se réfère à une trame, à un paradigme même, qu'il va être capable de faire remonter dès l'origine. Et ça n'interfère pas la critique biblique. La critique biblique, on va dire qu'elle est à côté. Elle n'est pas au cœur de cette élaboration. Si je dis par exemple à un enfant adoptif que je suis son père, je ne le suis pas naturellement, mais que je suis son père, et que lui, il ne va pas savoir qu'il y a eu un changement, il va vivre toute sa vie avec cette reconnaissance-là. Peu importe si historiquement c'est vrai ou c'est pas vrai. Hein, j'ai fait l'analogie tout à l'heure entre les faits divers du Parisien et Victor Hugo. J'ai absolument pas une vision péjorative ou suspicieuse de la mythologie. La mythologie, c'est le cœur de la civilisation. Donc pour moi, ça n'est absolument pas une offense que de dire que toute le Tanakh, que toute la Bible juive, on va en parler, je vais vous faire une description un petit peu tout à l'heure, relève de la mythologie. Ça ne me gêne pas. Puisqu'on est dans une structure de la culture d'un peuple. Et c'est cette culture-là qui fait sens. Personne ne vous dira « Oui, mais on a démontré historiquement, parce qu'on a fait des fouilles archéologiques, que toute la mythologie grecque n'a jamais existé. » Ça vous ferait rire, si on vous disait ça. Pareil. Alors, il y a certains... je ne sais pas comment les appeler, fondamentalistes ou extrémistes, etc., qui soutiennent bec et ongles que tout cela est vrai parce que ça a existé, parce que c'est forcément, etc. Mais non, on s'en fiche, ce n'est pas le problème. La question n'est pas là. J'ai commis, moi, toute une étude qui sera peut-être publiée un jour, parce que j'ai beaucoup de travaux en attente, sur les origines de la création dans les sources juives. On ne va pas aborder ça sur le problème des découvertes scientifiques et des problèmes théologiques, etc. Et dans l'introduction de ce travail-là, qui n'a pas encore été publié, c'est un travail d'une trentaine de pages, qui donnera l'objet d'un livre plus tard, mais je l'ai déjà dit, je dis que le problème des créationnistes, vous savez, ceux qui imposent la lecture et qui interdisent les manuels scientifiques, avant d'être un problème avec la science, ils ont d'abord un problème avec la Bible. Il lui donne une lecture, il lui prête une lecture que dans la théologie juive, chrétienne et musulmane, on n'a jamais donné une telle lecture. C'est une absurdité radicale. Et pour vous donner un exemple presque risible, la plupart de la scolastique, vous savez ce que c'est la scolastique, le courant de pensée du Moyen-Âge qui a essayé de produire une réflexion philosophique voulant réconcilier la foi, ou disons la théologie, avec la raison, avec la rationalité. Ici, en l'occurrence, la raison, c'était la raison d'Aristote. On a dépassé Aristote, mais il faut imaginer leur époque. Dans toute la scolastique, la quasi-totalité, les plus importants, allant de Thomas d'Aquin, Maïmonide, etc., disent que nous n'avons aucun problème avec la foi théologique d'admettre la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'Aristote défend l'idée que puisque le principe causal est un principe immanent qui ne subit pas de déformation, donc le jour se lève, il se couche, les êtres naissent et ils meurent, etc. Donc l'observation révèle que ça a été comme ça depuis toujours, de toute éternité. Comment comprendre le récit de la Genèse si on admet cette théorie d'Aristote? Alors par exemple Maïmonide, il n'admet pas la théorie d'Aristote parce qu'il dit qu'elle n'est pas démontrée. Mais si elle l'était, j'aurais pas eu de mal à l'admettre. Et j'aurais dit ceci, j'aurais dit que de la même manière que lorsqu'on parle de Dieu comme d'un homme, il se met en colère, il étend sa main pour sortir les Hébreux d'Égypte, donc on a l'impression qu'il a un corps, il regarde, il entend, il parle, comme nous, pareil. Alors c'est un langage métaphorique. Il dit de la même manière, je dirais que tout le récit de la Genèse n'est qu'une métaphore, c'est une allégorie. Et que l'idée d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, ne contredit pas le principe de l'éternité du monde. Parce qu'on est dans des idées abstraites, et pas dans des idées, dans un mécanisme. Si vous voulez, le Dieu des créationnistes est un Dieu qui, selon eux, pourrait un jour être issu d'une découverte du carbone 14. C'est-à-dire qu'il fait partie de la création. Il n'est pas l'agent qui crée, il n'est pas le premier moteur, comme dirait Aristote, il est constitutif du moteur lui-même. Donc en réalité, la conception des créationnistes radicales est une conception profondément hérétique d'un point de vue de la foi monothéiste. Donc vous voyez, il faut faire très attention lorsqu'on fait des analogies entre les événements, etc. Bon, je passe cette idée pour dire que il y a bien donc une idée de foi, une idée de logique, de commandement, etc. Et il y a bien cette notion de peuple, qu'il ne faut pas prendre au sens ethnique, mais au sens d'adhésion. Je vais maintenant aborder la manière dont le judaïsme s'est construit. Parce que c'est ça qu'il fallait aborder, et puis après je passerai aux questions, on fera un débat, et puis s'ils nous mettent dehors, on continuera de discuter dehors. Alors, vous avez compris, on peut faire des parallèles et dire oui, mais la critique biblique dit ça, etc. Vous avez les manuscrits de Qumran, vous avez entendu parler des manuscrits de Qumran? Alors moi, quand on me pose la question des manuscrits de Qumran, je réponds ceci. Je réponds que le problème, c'est pas l'authenticité des manuscrits de Qumran. Il n'y a aucune raison d'imaginer qu'ils ne le soient pas. De la même manière que il n'y a aucune raison d'imaginer que les apocryphes chrétiens ne sont pas authentiques. Personne ne discute là-dessus. Il y a eu un choix théologique chrétien qui a choisi quatre évangiles et pas plus, même s'il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu un choix aussi juif qui a choisi d'écarter certains ouvrages de la Bible et de conserver certains autres. Il y a une raison à ça. Une fois qu'on connaît la raison, on connaît la cohérence. Les écrits de Qumran peuvent remettre en question effectivement pas mal de données qu'on a toujours cru comme acquises sur le texte biblique. Je ne discute pas là-dessus. Sauf que pour le judaïsme, et c'est là que j'introduis ce que je veux dire, le judaïsme, alors le Coran, en parlant des juifs, il parle du peuple du livre. C'est une belle expression qui est reprise d'ailleurs dans ce bouquin, je cite un auteur juif qui le cite, le peuple du livre, Et je pense que cette idée est juste si on l'oppose au peuple de la terre. Je vais à la fin, je parlerai de cette question, cette problématique. Le peuple juif n'est pas un peuple de la terre, c'est un peuple du temps. J'aime beaucoup cette phrase du Talmud qui dit « Nous sommes des bâtisseurs du jour ». Et c'est ce qui fait que pendant 2000 ans, sans terre, le peuple juif a continué à exister. Parce qu'il ne s'est jamais référé à une terre. La terre d'Israël, elle a son importance, c'est ce que j'explique dans Israël-Palestine d'ailleurs. Mais elle est liée à l'accomplissement du rite, des commandements. Et tous les commandements sont liés au temps. Donc même le rapport à la terre, ce qu'on appelle sur la violence, est un rapport au temps. Autrement dit, pour le judaïsme, si on disait pour le judaïsme actuel, alors quand j'emploie le terme d'actuel, c'est par opposition au judaïsme biblique. Donc je parle des 2000, des 20 derniers siècles. Hein, d'accord ? J'appelle ça actuel, contemporain. Si on parle du judaïsme contemporain, donc ça fait 2000 ans qu'il existe, un petit peu moins d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, si on veut faire une petite digression en faisant une petite boutade, c'est que souvent, quand on nous fait intervenir dans le dialogue interreligieux, on nous dit, on va faire l'ordre chronologique, on va d'abord faire parler le juif, ensuite on va faire parler le... C'est un peu bateau ce truc-là, c'est un peu bref, surfait. Moi je refuse toujours, j'aime pas du tout parler en premier. Mais un jour, je leur ai dit, mais d'abord, c'est pas vrai. Le christianisme est antérieur au judaïsme. Et oui. Et ça, c'est vrai, et historiquement, et bibliquement, et religieusement. Pourquoi ? Parce que le judaïsme contemporain, qui a déjà presque 15-20 siècles, est issu de la tradition rabbinique. Et cette tradition, elle est après Jésus. Elle a commencé un peu avant, mais elle s'est vraiment fabriquée, construite, vers le deuxième siècle. Donc vous voyez, c'est un peu complexe. Alors quand on dit, par exemple, pour le judaïsme contemporain, bien sûr, le livre de référence, c'est la Bible, parce que la Bible, excusez-moi, la Bible, elle a un... C'est, si vous voulez, c'est comme un archétype, c'est comme un livre de référence. Mais en réalité, c'est la tradition juive l'essentiel. C'est-à-dire, c'est plus la manière dont les juifs, et on va parler de ça, dont les juifs ont rendu les textes immanents, ils ont concrétisé, ils ont rendu réel. Et à travers cette tradition d'interprétation est née une tradition de commentaires immense qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La bibliothèque juive est une bibliothèque immense. Les juifs ont passé leur vie à commenter les textes. Ils ont commenté les textes, ils ont commenté les commentaires, et ils ont commenté les commentaires des commentaires. Vous voyez, ça se finit jamais, cette affaire-là. Et c'est ce qui a donné, en fait, cette idée, le cœur du judaïsme, le plus important, en fait, de la vie juive, c'est l'étude. On ne peut pas, normalement, à moins d'avoir un problème pathologique, quand on est même ultra-orthodoxe, on ne peut pas être face au texte fondamentaliste. Parce que toute la logique rabbinique, c'est la déconstruction de quelque chose qui pourrait être figé et qui pourrait faire consensus. Rien ne fait consensus dans le judaïsme. C'est une idée qui est fausse, erronée et qui n'existe pas. Maïmonide, le grand Maïmonide qui est mort en 1204, c'est le plus grand, c'est pour ça que j'en parle. Il a tenté de ce que moi j'appelle, donc il est né en 1135 ou 38, on ne sait pas trop. Il est mort en 1204, il a vécu en Espagne, en Égypte, etc. Il a tenté de systématiser la foi d'Israël en érigeant ce qu'on appelle les 13 principes de foi, vous en avez peut-être entendu parler. Il est loin d'avoir fait l'unanimité. Après lui, des livres entiers ont été écrits contre lui. Et je vais aller très loin. Puisque Maïmonide écrit dans un de ses ouvrages que c'est une conception hérétique d'imaginer que Dieu a un corps. Aujourd'hui, on admet tous ça. Dieu n'a pas de corps. Et que tout le langage corporel attribué à la Bible est un langage anthropomorphique qui ne correspond pas à Dieu. À son époque, il y avait un contemporain, un très grand maître qui s'appelait Abraham ben David, qui vivait dans une région qui s'appelait à l'époque Poskier. la ville de Lunel, donc c'est du côté de Montpellier. On l'a appelé le Ravade. Lui, il était plus âgé que Mamouni, et c'était un de ses plus grands contradicteurs. Il est né en 1120, il est mort en 1199. Il écrit sur ce texte de Maïmonide que comment il peut dire une chose pareille alors qu'il y a des sages beaucoup plus grands que lui qui ont admis que Dieu a un corps. Et il est un des plus grands penseurs juifs du Moyen-Âge. Pour lui, l'idée que Dieu a un corps est une idée banale, tout à fait plausible. Donc même sur ça, il y a lieu de ne pas être d'accord. Il y a lieu d'avoir un désaccord. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Ça se discute. Donc il y a, si vous voulez, dans le judaïsme, cette idée que... Alors la Bible, qu'est-ce que c'est que la Bible? Parce que je suis obligé maintenant de l'introduire pour pouvoir dire la suite. La Bible juive, alors ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, j'ai pas de problème avec cette appellation de l'Ancien Testament, ça ne me gêne pas du tout, ou la Première Alliance, ou le Premier Testament, appelez comme vous voulez. Alors, dans cette idée, dans la Bible juive, il y a trois parties. Ce qu'on appelle le Tanakh. Vous avez déjà entendu parler de ce terme hébreu de Tanakh. Alors, en hébreu, vous n'avez pas de voyelle. Vous pouvez vocaliser comme vous voulez. Vous avez le T, vous avez le N, et vous avez le K. T et le K. C'est pas une référence d'une bombe atomique. C'est la Bible. Alors, le T, c'est la Torah. Donc ça, c'est les cinq livres de Moïse. Ensuite, le N, c'est les Névi'im. Donc les Névi'im, ça serait les prophètes. Les livres prophétiques, plutôt, on va plutôt dire comme ça. Ça inclut aussi l'histoire d'Israël dans la souveraineté politique. Et ensuite, vous avez les Ketubim, qu'on pourrait traduire par les écrits. Vous avez les psaumes, les textes que les chrétiens appellent... testamentaire, vous avez les proverbes de Salomon,
l'Ecclésiaste,
voilà. Alors, si on veut regarder par rapport au judaïsme contemporain, la Bible c'est comme un archétype, si vous voulez, c'est comme un point de départ. Mais c'est pas l'œuvre la plus importante du judaïsme. C'est là que le bât blesse, si vous voulez. L'œuvre la plus importante du judaïsme, c'est ce qu'il y a après, c'est le Talmud. Le Talmud, un livre, qui n'est même pas un livre, qui est plus qu'un livre, c'est une institution qui a été longuement méprisée, galvaudée, on l'a piétinée. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le seul livre au monde qu'on n'a pas besoin de connaître pour critiquer. Allez sur Internet, tapez sur Google, vous allez voir, les pires antisémites sont les plus grands talmudistes. Ils n'ont jamais ouvert une page du Talmud de leur vie, mais ils sont les plus grands talmudistes. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que le Talmud, pour aller très vite? Le Talmud, bon, déjà, Talmud, ça vient du verbe lamed, qui veut dire enseigner ou étudier. Bon, déjà, c'est une œuvre d'étude. Le Talmud, il est composé de deux parties. Une partie, alors là, je vais effacer un peu, excusez-moi. Ça, c'est bon?
Attends, j'ai effacé un peu plus.
Non, mais c'est là que je vais bien effacer. À côté, je laisse pour les... Non, mais je n'ose pas effacer ce qui me partit. J'efface que ce qui me partit. Donc le Talmud, vous avez deux parties. Première partie, ça s'appelle la Mishnah. Vous avez déjà entendu parler de ce terme? Non?
Non,
mais je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous poser la question. Vous avez une deuxième partie qu'on appelle la Gemara. L'ensemble de ces deux œuvres s'appelle Talmud. Alors qu'est-ce que la Mishnah? La Mishnah, alors, les Juifs disent qu'il y aurait eu, tout cela est au conditionnel, puisque je vais t'offrir aussi de l'historico-critique, qu'il y aurait eu, à l'époque où Dieu se serait révélé au Sinaï, deux Torahs qui lui auraient été données, parce que les Juifs votent tout en double. Il y a la Torah écrite, donc la Torah du Tanakh, et il y a la Torah orale. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, c'est un scoop complètement nouveau. Vous ne l'avez jamais entendu avant, vous ne l'entendrez peut-être jamais après. Alors, regardez-le, parce qu'au moins vous saurez. Il n'existe aucune œuvre juive qui s'appelle la Torah orale. C'est un concept vide. On ne sait pas du tout ce que ce concept représente. Par contre, quand vous demandez à un juif qu'est-ce que c'est que la Torah orale, il vous dit, parce que c'est ce qu'on lui a appris, et à mon avis c'est à tort, oui, donc je peux un peu critiquer mes copains, il vous dit bah, la Torah orale c'est le Talmud. Non, la Torah orale ça n'est pas le Talmud. Alors, pour vous expliquer ce que c'est exactement le Talmud par rapport à cette idée qui est plus un concept qu'une idée réelle de Torah orale, il faut dire une chose très simple. L'idée qu'il y aurait eu une Torah orale qui a été transmise à Moïse relève d'un processus théologique majeur pour comprendre toute l'élaboration de la tradition juive. Mais, c'est là qu'il y a un mais, le Talmud lui-même affirme une chose extravagante, que toute, lui il parle d'un chiffre extravagant, puisqu'il parle de 3000 lois, donc on peut dire que ça inclut tout, que Dieu a donné à Moïse à l'oral, ont été oubliées après sa mort. Donc le peuple juif, il a oublié ces lois. Et le Talmud va expliquer, à travers une analyse très subtile, que ces lois, elles ont été restituées à travers ce qu'on pourrait appeler, c'est pas vraiment ce mot, mais c'est un mot qui n'existe pas en français, puisqu'on parle du bilboul. Le bilboul, c'est un terme intraduisible, ça fait partie des mots qu'on ne traduit pas. Alors, en hébreu moderne, vous avez le bilpel, c'est le poivre. Le bilboul, c'est l'idée d'avoir de raisonner, d'avoir du raisonnement qui essaie de chercher quelque chose, d'être en quête. Donc vous raisonnez, non mais là je ne suis pas d'accord, mais il y a ci, il y a ta, etc.
Et je le regarde.
Voilà. Mais ce qu'on pourrait appeler la dialectique, par exemple. La dialectique ou la casuistique, vous pouvez employer des termes qui ne restituent pas le terme, mais qui sont les plus rapprochants. Autrement dit, en réalité, c'est comme si qu'on disait, lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse, de la même manière, j'ai eu la même chose moi quand j'ai acheté mon micro-ondes, on m'a vendu un manuel qui va avec. Aujourd'hui, vous n'avez plus de manuel, il faut aller sur Internet pour aller le trouver. Eh bien, il lui a donné un manuel, c'est-à-dire, il lui a donné une méthode de lecture. Cette méthode de lecture, c'est une grille de lecture, c'est une cohérence, qui l'est à l'interne de cette propre étude. Si vous conservez cette cohérence, vous êtes cohérent. Vous pouvez imaginer qu'on va lire le texte d'une autre façon, avec une autre cohérence, ce n'est pas interdit. Sauf que vous sortez de cette logique. La tradition orale, c'est l'idée d'être capable d'interpréter le texte biblique à travers cette cohérence-là. Vous pouvez dire deux choses contraires. Ils peuvent se contredire, ce n'est pas un souci. Ce qui compte, c'est que les deux qui se contredisent conservent cette cohérence d'étude. On pourrait appeler ça l'épistémologie globale de l'étude juive. Or, toute cette casuistique, si vous préférez, n'était jamais enseignée à travers un texte écrit. Il y avait des manuscrits, mais ils étaient uniquement réservés aux élites qui le conservaient pour eux, pour réviser avant de donner leur cours. Mais ils n'avaient pas le droit d'avoir un papier devant eux quand ils enseignaient. C'est ça la distinction entre Torah orale et Torah écrite. Il est venu un homme qui s'appelait Yehuda Hanassi, qui est du deuxième siècle. Yehuda Hanassi, alors le Nassi, c'est le chef, le président de l'académie. C'est le chef de l'académie, donc c'était un homme d'une très grande autorité religieuse et juridique, qui lui a dit, si on continue comme ça, on va droit dans le mur, la Torah d'Israël va être oubliée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord réunir l'essentiel de ce qui a été rapporté des siècles passés, et il va compiler ce qu'il a pu retenir dans une œuvre qu'on appelle la Mishnah. Une fois qu'il a conclu cette œuvre, les rabbins qui sont venus après, ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la manière de comprendre cette œuvre. On n'est jamais d'accord, c'est ça le problème. Donc ils ont continué à discuter. Ça a donné plusieurs, 3 siècles environ, de discussions, de débats, voire un petit peu plus. Et on a fini par réunir ce qui existait, parce qu'il y a plein de fragments qui ont été perdus, des milliers de fragments qui ont été perdus. On a fini par réunir le peu qui existait dans un texte qu'on appelle la Gemara, qui commente la Mishnah. Et ensuite, on a réuni ces deux œuvres ensemble, ça a donné Talmud. Alors maintenant, vous avez deux Talmud. Donc là, je vais m'effacer encore. J'efface tout ça, ça s'affiche. Vous avez le Talmud, d'abord le premier de Jérusalem, qu'on appelle le Yerushalmi. Et vous avez le Talmud, qui est plus important, mais plus en plus récent, de Babylone. Celui de Jérusalem, il a été conclu à la fin du 4e siècle, donc ici on est au 4e siècle, on va faire comme ça, 4e, et le Talmud de Babylone, c'est plutôt début 6e. Il y a plus d'un siècle qui les sépare. Donc il est beaucoup plus prolixe, beaucoup plus... On m'a demandé, mais bon, après je ne sais pas qu'est-ce que ça va vous donner, de vous faire voir les pages de Talmud, parce que c'est assez impressionnant. Mais ceux qui voudront, ils se rapprocheront, on pourra... Alors moi j'ai choisi un ouvrage qui est commenté, donc on ne va pas s'occuper de cette page, on va s'occuper de celle-là. Je ne sais pas si vous arrivez tous à voir.
Non.
Comment on va faire, hein? Vous voyez? Là. Oui, c'est écrit en hébreu. Le Talmud, non, c'est pas forcément un L. Ça peut faire autre chose qu'un L. Par exemple, ça peut faire ça. Le texte ici, c'est le Talmud. Là, vous avez, ici, là, le commentaire de Rashi. Non, la Mishnah, elle est inclue dedans. Vous avez le commentaire de Rashi, qui est un rabbin qui vivait à Troyes. Lui, il s'intéresse surtout au sens des phrases. Donc, il s'arrête phrase par phrase. Alors, le Talmudiste qui étudie le Talmud, parce que c'est très elliptique, le Talmud, on a du mal à comprendre. En général, il pose deux doigts, il lit un petit peu, puis il voit ce que... Il fait comme ça, en fait. Il étudie avec deux doigts. Et ensuite, vous avez des commentaires un peu plus prolixes, un peu plus denses, avec une analyse textuelle beaucoup plus approfondie, qu'on appelle les Tosafot, qui sont ici, qui sont tous... Les Tosafot. Tosafot, en hébreu, ça veut dire ceux qui s'ajoutent. Alors, ce qui est très intéressant, on va faire un petit clin d'œil à notre chère patrie, tout... Ces commentaires-là, tous, à l'unanimité, sont français. Ils ont tous vécu en France.
Les Tosafot. Vivant en France.
Voilà, vivant en France. Alors, Rashi vivait à Troyes, tout le monde le sait, mais tous les Tosafot aussi. Et tous ces commentaires utilisent souvent, ont recours souvent à des mots de l'ancien français pour expliquer des formulations talmudiques qu'ils ne comprennent pas. Après, vous avez, par exemple, des petites choses autour. Toutes les choses autour, elles ont un sens. Alors, je ne veux pas maintenant tout aborder, mais par exemple, il y a des choses qui relèvent de la loi, de la pratique religieuse. Ça a été débattu dans le Talmud, et ensuite, il y a des livres de conclusion. Le plus connu étant Maïmonide, je vais en parler. Ici, il vous donne tout de suite les références où on peut les trouver, dans les livres de conclusion. Ça permet d'avoir un commentaire aussi, d'une certaine façon. Chaque phrase du Talmud qui est répertoriée ailleurs, ça c'est du Google avant la lettre, il y a, vous avez un petit astérisque qu'on vous met ici, à quel endroit elle se trouve ailleurs. Elle est écrite 10 fois, la phrase, vous savez tout de suite les 10 fois. Et à chaque fois, vous avez un contexte différent. Ça vous permet d'élargir vos études. Tous les versets qui sont cités, ils sont référencés. Tout est là. Vous voyez, une page de Talmud, c'est une œuvre d'art. Mais c'est assez beau à voir. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est l'édition Vilna. C'est-à-dire qu'elle a plus de 2 siècles. Et elle était comme ça depuis l'origine. Avec là, elle a été un peu modernisée, mais elle était comme ça, c'est-à-dire qu'elle est plus propre. Mais elle était comme ça, avec le texte du Talmud de Bilieu, et c'est super bien fait. Alors,
ça c'était pour vous montrer un exemple. Donc il y a deux Talmuds. Le Talmud de Jérusalem, il est à la fois moins prolixe qu'a priori, il est censé être plus facile, mais en réalité, il est beaucoup plus dur pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est trop bref, donc parfois on se demande où ils vont venir, il n'y a pas assez d'éléments. Il y a aussi des commentateurs qui permettent de le commenter. Et la deuxième, c'est parce que c'est un langage assez obscur, beaucoup plus obscur que le Talmud de Babylone. On pourrait imaginer que le Talmud de Jérusalem était en hébreu. Non, c'est même pas en hébreu, c'est un araméen encore plus difficile que l'araméen du Talmud de Babylone. On va dire que quand les deux Talmuds se contredisent, la loi, elle va être fixée à partir du Talmud de Babylone. Mais le Talmud ne contient pas uniquement de la loi. Il contient des histoires, de la narration, même des réflexions philosophiques, et même des choses marrantes. Il y a beaucoup d'humour. Par exemple, dans cet ouvrage, excusez-moi de m'auto-référencer, « Des mille et une merveilles de la sagesse juive », qui est en 50 rubriques, j'ai choisi des textes un peu inconnus, même des textes marrants, des textes amusants, pour permettre à ceux qui ne sont pas du tout au fait de la tradition juive, de se faire une petite idée... De se faire une petite idée, un petit panel global de ce qu'est, de ce que disent les textes. Alors je vais vous donner un petit exemple. Je cherche pour vous donner au moins un petit exemple. Alors c'est vraiment, ça devrait être là, puisque
Non. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Je pensais le trouver. Alors. Non, si, c'est bon. Si, c'est ça. Alors. Alors, je vais vous donner un petit exemple, c'est juste pour faire un petit clin d'œil. Donc ça, c'est un texte qu'on trouve dans la Mishnah. Alors, ça ne vous donnera pas l'idée de ce qu'est la Mishnah, parce que justement, j'ai choisi un texte très original. Je vous le lis, puis vous verrez ce que ça vous, si ça vous parle. Un animal vivant a une seule voix. Après sa mort, celle-ci est multipliée par 7. Comment ? Ses deux cornes se transforment en deux trompettes. Les os de ses deux pattes en deux flûtes, sa peau en un tambour, son gros intestin en corde de harpe, son intestin grêle en corde de lyre. Voilà quelques idées de textes d'aphorismes assez amusants qu'on peut trouver dans le Talmud. Vous voyez, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc le Talmud, c'est une œuvre qui contient un peu de tout, y compris une approche scientifique, qui n'a rien à voir avec la vérité scientifique. Mais c'est l'approche qu'ils avaient du monde qui est fascinante, tout à fait intéressante. Le Talmud, c'est une œuvre qui nécessite une vie d'investissement. On ne peut pas comme ça arriver et prétendre avoir lu le Talmud parce qu'on a lu 20 citations qui gambattent sur Internet et sur lesquelles on n'a rien compris. Ça ne marche pas comme ça. C'est une œuvre qui nécessite une vraie préparation, un vrai investissement. Ce n'est pas juste du blabla. Bref. Alors, si vous voulez, on va dire que tout ça, c'est la Torah orale, mais ce n'est pas vrai. Il faut être rigoureux. La Torah orale n'existe pas. C'est comme une sorte de fantasme. Il a existé d'un point de vue de la logique talmudique, et c'est selon cette logique-là que le Talmud procède, un enseignement oral qui aurait été donné à Moïse, mais personne n'est capable de vous dire « Voilà l'ouvrage, je l'ai, il est là, j'ai le texte. » Vous voyez ? Ça veut dire qu'en réalité, le peuple juif, c'est pas tout à fait le peuple du livre, même si c'est pas tout à fait faux non plus. C'est plus l'idée de l'interprétation. Le Talmud, ça c'est ce que je dis dans l'introduction, enfin à la conclusion du livre sur la violence, c'est comme si c'était la terre portative. Vous savez que quand les Hébreux ils étaient dans le désert, ils avaient un temple portatif pour se déplacer. L'idée qu'il y ait un lieu fixe est une idée qui a duré très peu dans l'histoire juive. L'essentiel de l'histoire du judaïsme relève de nomadisme en réalité, d'un peuple qui se déplace, qui va d'une terre à l'autre. Ce que Lévinas appelle un peuple étranger au sol. Et c'est la raison pour laquelle la Torah elle a été donnée dans le désert. C'est le Midrash qui le dit, pour nous apprendre que ce n'est pas un lieu fixe. Ensuite, alors bon, on pourrait imaginer les problèmes politiques, etc. On ne va pas l'aborder maintenant. Donc le plus important des législateurs et aussi des commentateurs, alors on a parlé de Rashi, Rashi c'est très important, mais de mon point de vue, Maïmonide l'est encore plus. Donc il s'appelait Moïse Ben Maimon. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il est plus ? Pour une idée qui est très amusante, enfin qui est très simple à mon avis, parce que Maïmonide, il a écrit une œuvre qui n'a pas d'équivalence dans la tradition juive, je vous en ai apporté un exemplaire. C'est une œuvre en 14 volumes. J'ai apporté le plus petit parce que je ne peux pas porter lourd à cause de ma libération. Donc le moins gros, hein. Et ça, c'est en édition petite, il faut nous pour lire. Il s'appelle le Mishneh Torah. Dans ce livre, Maïmonide prétend... Alors, je vais l'écrire, excusez-moi. Le Mishneh Torah, c'est l'œuvre maîtresse de Maïmonide, donc le Mishneh Torah. Alors, Mishneh, ça veut dire répétition. C'est comme si c'était une révision. On va réviser la Torah. Dans ce livre, Maïmonide prétend, d'une façon très synthétique et très analytique, réunir l'intégralité de l'enseignement de la Torah écrite et orale, de la loi mosaïque, y compris les parties qui n'ont plus cours aujourd'hui. Parce que vous avez peut-être déjà entendu, chez les Juifs, est-ce que vous savez combien il y a de commandements ?
613.
Ah, vous connaissez le cours, alors pourquoi vous m'avez invité ? Ouais. Alors, vous avez 613 commandements. Il y a des fins connaisseurs aussi. Sur les 613 commandements, vous avez 248 positifs, c'est-à-dire il faut faire, vous avez 365 négatifs. Alors moi, je vais, vous inquiétez pas, après le cours, on va tous les énumérer. Ce qui fait 613. Alors, dans mon livre sur la violence, je parle de cette question, puisque j'explique, en fait, c'est lié à ce que je vais dire maintenant, c'est pour ça que j'en parle, qu'il y a deux paradigmes qui définissent le peuple juif, un qui est biblique, qui parle d'un projet politique, politique dans le sens religieux, pas la politique, la géopolitique actuelle, on ne parle pas de ça du tout, il n'est pas question de ça. Et une autre période, que moi j'appelle diasporique. Or, il se trouve que si on regarde maintenant, avec le recul que nous avons aujourd'hui en 2018, l'histoire juive, on s'aperçoit que la période où il y a eu véritablement un pouvoir politique sur la terre dite sainte de la Judée était très très courte. C'était une très courte période. Autrement dit, le cœur du peuple juif a vécu en dehors de cette logique politique. Or, il se trouve que de nos jours, pratiquement, actuellement, du fait de la fin de la souveraineté juive, j'ajoute aussi quelque chose, c'est tout un chapitre du livre qui explique ça, qu'il ne faut pas confondre l'État d'Israël, sur lequel je n'ai rien contre, ce n'est pas le sujet, avec le retour de la souveraineté politique juive. Quand on parle du retour de la souveraineté politique juive d'un point de vue religieux, on parle de la construction, du retour avec le Temple, avec le messianisme, avec donc le Sanhédrin, le pouvoir central juif. Le retour, si vous pouvez me permettre un peu d'humour, de la charia juive, du coup, qui n'est plus en vigueur de nos jours. Alors, sur les 613 commandements, vous en avez un peu plus de 400 qui sont plus applicables aujourd'hui, qui n'existent pas. C'est qu'on ne peut plus appliquer. Or, Maïmonide, il a choisi de passer outre cette donnée-là et de analyser l'intégralité de la loi d'Israël dans cet ouvrage, à tel point qu'il écrit dans l'introduction de son livre, qu'il a écrit ce livre, que je vais vous faire voir tout de suite, mais c'est plus petit, alors il va falloir vous lever, ou je ne sais rien, qu'il a écrit ce livre pour que celui qui va l'étudier, après avoir lu le Tanakh, donc le Tanakh, il aura une connaissance intégrale de toute la tradition juive, orale donc, sans avoir besoin de passer par un autre livre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le Talmud d'après Maïmonide, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais ça veut dire que pour la connaissance de la loi, le Talmud n'est pas forcément nécessaire. Et le livre de Maïmonide se présente un peu comme le Talmud, quand vous l'ouvrez. Toujours le même procédé. Bon, moi, j'ai choisi ici une édition critique, refaite, c'est très intéressant, qui s'appelle Frankel, et qui, où il y a beaucoup plus de choses que dans les éditions anciennes, notamment une table des matières à la fin, de plus de 1000 ouvrages, annexe qui commente Maïmonide. Ce qui permet pour un chercheur qui a envie d'aller consulter les sources d'avoir des références. Donc là, vous avez le texte de Maïmonide de milieu et vous avez les commentateurs. À quoi servent-ils? Alors, on va dire deux choses importantes. C'est que Maïmonide a considéré qu'il faut expliquer la loi, mais il ne faut pas non plus faire comme fait votre serviteur, vous asséner d'informations et après vous allez tout oublier. Donc ce qu'il faut faire, c'est être le plus concis possible. Rappelez-vous, hein, j'ai cité Maïmonide au départ, mais je n'ai pas son art. Lui, il a dit, si j'avais pu résumer, etc. Bon. Alors, donc il n'a pas cité ses sources. Ce qui a fait qu'il y a eu une bombe atomique à ce moment-là, il y a eu donc le Ravat dont on avait parlé, rappelez-vous, qui lui s'est insurgé contre lui, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cet auteur? On n'a jamais vu ça. On fait un travail sérieux et on ne cite pas les sources. Alors les commentateurs, ils cherchent avant tout, avant de commenter le texte, ils cherchent à se battre pour savoir d'où Maïmonide a puisé ces textes précisément. Donc c'est un travail de recherche qui est très intéressant parce que parfois on voit que les sources ne sont pas toujours identiques et qu'il y a des subtilités qui distinguent les sources de ce que Maïmonide dit. Donc il faut aussi l'expliquer. Donc c'est une analyse textuelle si vous préférez. Maintenant dans le monde philosophique, Maïmonide, mais je ne voulais pas apporter parce que mon médecin m'a dit pas plus de 5 kilos. Maïmonide, il a écrit une œuvre qui est plus connue pour le monde universitaire, qui est une œuvre philosophique majeure, qui est très importante, et qui fait corps, à mon avis, avec le Mishneh Torah, les deux livres sont indissociables, qui s'appelle, vous le connaissez ce titre, Le Guide des Égarés, qui existe en français. Alors, si je peux me permettre de vous dire une petite chose, toutes les œuvres de Maïmonide ont été écrites en arabe, toutes. Avec des lettres hébraïques, sauf le Mishneh Torah. C'est le seul qu'il a écrit en hébreu. Dans le livre des Bédouins de Merveille, je rapporte un de ces textes où un de ses élèves lui demande de traduire le Mishneh Torah en arabe et il refuse. Et il dit, si j'avais pu, c'est à la fin de sa vie, même tous mes livres que j'ai écrits en arabe, je les aurais écrits en hébreu. Bon, revenons à nos moutons. Le Guide des Égarés a été traduit par un philologue de l'époque, un homme qui connaissait bien les langues, et qui a traduit beaucoup d'œuvres des rabbins du Moyen-Âge qui ont été écrites en arabe, donc inaccessibles pour ceux qui comprennent l'hébreu, qui s'appelle Ibn Tibbon. Il se trouve que Ibn Tibbon, qui était un contemporain de Maïmonide, a un hébreu très littéraire, très poussé, qui n'a rien à voir avec la fluidité du langage de Maïmonide, et qu'on a eu la chance, nous les Français, on fait toujours un rappel à la patrie, on a eu la chance, nous les Français, d'avoir un rabbin énormément érudit, qui s'appelait Salomon Monk, qui vivait au XIXe siècle, donc vraiment à l'époque de la critique biblique, et qui était un immense érudit, et qui a choisi de retraduire... Comment ?
Tu arrives à...
Voilà, j'ai fini pratiquement. Il reste une dernière chose et j'ai fini. Et qui a choisi de retraduire l'intégralité de l'œuvre de Maïmonide à partir de l'arabe originel, avec un appareil critique. Et ce qui fait que la traduction en français que nous avons est la meilleure qui puisse exister. Elle est meilleure que la traduction en hébreu. Donc c'est le jeu des circonstances. Et vous pouvez la trouver, pour ceux que ça intéresse, de jeter un œil, et qu'ils n'ont pas envie de débourser 50 euros pour aller acheter. Vous pouvez la trouver sur Gallica. Oui. Donc c'est l'ancienne édition, mais vous avez les notes, etc. Alors, je vais finir, pour aller très vite, pour dire que après Maïmonide, au XVe siècle, après je vais passer aux questions, il y a eu un homme qui s'appelait Joseph Caro, qui est une pièce centrale du peuple juif. Alors, lui, il est mort en 1575, je vais vite. Merci. Et lui, il a choisi de faire une synthèse de toute la discussion. Rabbi, comment ?
Non, vas-y, pardon.
Non, mais je termine là, c'est fini. Non, mais c'est parce que je voulais vous montrer le dernier livre. J'ai terminé pour rien. Et il a choisi de faire une synthèse de tout ce qui avait été dit avant lui, mais il s'est contenté de ne travailler que sur les lois praticables de nos jours. Et il a écrit un livre qu'on appelle le Shulchan Aruch. Littéralement, ça veut dire la table dressée. Et c'est le livre qu'on consulte aujourd'hui quand on a un problème de loi. Alors, là aussi, je vais vous faire voir une édition récente de cette œuvre. Alors, je vais choisir une page, voilà. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Vous avez le texte au milieu et vous avez la quantité de pages. Voilà. Donc, maintenant, je passe aux questions. On a commencé aussi en retard.
Tout à fait.